Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage de Mathieu Noël. Deux heures pour faire le plein d'infos, de découvertes, dans une ambiance sereine et toujours très détendue. Aux côtés de Mathieu Noël, on va retrouver bien sûr Eva Rock, nos journalistes en compétition pour le titre du meilleur chroniqueur et les invités de la semaine venus participer, arbitrer et surtout parler de leur actu. Alors cette semaine, ils étaient parmi nous, le médecin urgentiste Patrick Peloux, Akhenaton Shuriken du groupe IAM, le chroniqueur musical et compositeur Alex Jaffray, le trompettiste Ibrahim Malouf et l'humoriste de stand-up le comte de Bouderbala. Et lors de l'émission publique vendredi dernier, il découvrait, ce dernier en tout cas, découvrait le sujet d'Alain Siroux, que voici.
Un mot pour Alain Siroux qui s'avance vers le micro, fébrile et tremblotant.
La vie, c'est comme un match de basket, je te jure, c'est vrai. Tant qu'il y a du temps, tu peux revenir au score et gagner ce putain de match. Donc s'il te reste des secondes, des minutes, mais lâche pas l'affaire, mon pote, vas-y.
C'est ça, Alain, ne lâchez pas l'affaire, mon pote, même si votre sujet du jour me paraît un peu bancal. Pas clair en tout cas. De quoi vous nous parlez, Alain? J'ai toujours rien compris avec le teaser tout à l'heure.
Je vais vous parler de la sortie mondiale de Stardust Odyssey. Alors Stardust Odyssey, c'est un film qui vous est passé sous le nez, puisqu'il est sorti cette semaine, mais qui est un hommage des technologies de pointe à David Bowie, ou plus exactement, c'est un film tourné à une échelle jamais montrée, l'échelle microscopique, puisque l'acteur principal, le personnage, fait un tiers de millimètre de hauteur.
Il est physique, ce personnage. C'est-à-dire que c'est pas un film d'animation. On n'a pas fait sur un ordinateur des dessins. C'est un personnage.
Pas du tout. C'est un personnage en résine. La caméra, c'est un microscope électronique à balayage du CNRS. Le studio de tournage, c'est une enceinte sous vide qui fait à peu près 20 cm de côté et qui met en animation 250 figurines.
Et c'est sur un disque qui tourne, un disque 45 tours.
Alors, on voit à l'animation, c'est-à-dire vous avez vu le film, on l'a mis sur le site. Hein.
Sur le site europe1.fr, voilà. Évidemment. Comme ça, vous
on voit une
voir.
Poussière, on voit d'abord un disque qui tourne, et on voit dans le micro-sillon une poussière qui tout d'un coup se développe, apparaît, et se transforme en David Bowie, mais personnage, avec des pieds et des mains, avec une tête,
tout ce
un visage.
Tous les organes de David Bowie.
Incroyable. Et vous imaginez, un tiers de millimètre de hauteur, on reconnaît David Bowie. Le visage a été scanné en quelque sorte à partir d'une fiche de police où il avait été arrêté de face, de profil. Et en fait, les ingénieurs, avec une imprimante 3D, ont reconstitué à cette échelle. C'est donc le plus petit personnage jamais fabriqué au monde.
Là, on a le record du monde, là, nous les Français.
On a le record du monde, validé cette semaine par
le Guinness.
Et c'était extraordinaire de voir que finalement, dans l'infiniment petit de la fabrication de la matière, parce qu'on est vraiment là dans quelque chose qui touche aux technologies de pointe, hein, donc c'est vraiment... Il n'y a pas plus, je dirais, complexe à fabriquer. Eh bien, on fabrique un film d'animation qui mélange à la fois la technique et la poésie, parce que Ziggy Stardust, c'est un personnage qui vient de nulle part, qui se lève, qui sort du disque et qui, tout d'un coup, rejoint une étoile qu'il va toucher et disparaître.
Alain Siroux, tout ça est très poétique, mais je crois qu'hélas, c'est le moment d'entendre la question vache de l'autre chroniqueur. Axel de Tarlé, je vous sens moyennement convaincu par ce film.
J'ai rien compris. En revanche, j'ai une question très simple qui va vous mettre à terre, Alain Siroux. Vous nous parlez de David Bowie, on pense tous à Space Oddity. Question. La chanson Space Oddity a été utilisée comme bande-son par la BBC à l'occasion de quel événement?
Je n'en ai aucune idée.
Pourtant, vous êtes un spécialiste de cet événement. Il s'agit couverture de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune en 1969.
Oh bah alors Alain,
quel
ça
mois
vous auriez dû le savoir.
Oh bah juillet. Juillet 69. Le 20 juillet 69.
Ou
dans la nuit du 20 au 21 exactement. Mais Space Oddity a été utilisé aussi par Elon Musk pour envoyer sa voiture Tesla dans l'espace. Et ça, c'est beaucoup plus récent.
Encore
une fois, on est dans la symbolique. Hein. C'est-à-dire l'idée que finalement, on peut marier les technologies et l'art. Et ça, c'est beau.
Ah oui, alors c'était ma question, Alain. Est-ce que ça a des conséquences pour des futures recherches, alors je ne sais pas, dans le milieu médical ou de l'électronique ?
Alors non, mais ça montre la capacité des technologies de pointe et montrer cette capacité, ce savoir-faire, c'est extraordinaire parce que on est sans doute les meilleurs et devant les Américains pour le compte, pour le réaliser.
Et c'est un peu aussi le sujet du livre. C'est ce que je raconte sur la formation à la française. Mmh. Une formation d'exception, d'excellence. Mais on a une frange de cette jeunesse qu'on forme qui part à l'étranger parce que justement, il n'y a pas assez d'opportunités en France et il n'y a pas assez de moyens. Mais c'est hyper intéressant, monsieur Alain.
Merci, monsieur.
Non, mais vous dites un truc intéressant dans le livre qui rejoint ce que vous dites là à l'antenne. C'est en France, on a du mal à pousser les gens vers l'extérieur. On a souvent plutôt tendance à leur dire OK, tu veux faire ça, ouais, c'est quoi ton plan B, plutôt que de l'encourager pour dire à la personne tu peux y arriver si tu travailles, si tu bosses. Ça, c'est plutôt à l'américaine. Et cette culture-là, elle nous manque parfois en France.
Bah, on est handicapé de cette culture-là. Après, sans être des naïfs ou des béats de l'enthousiasme américain ou anglo-saxon, c'est vrai que bon, quand tu dis à un américain tu veux faire ça, c'est, tu vois, voilà, c'est comme tu disais, la motivation, tu peux le faire, you can make it, you can do it, let's go. C'est très très pragmatique. Après, en France, on est plus circonspect, on marche avec la pédale de frein. Donc c'est un petit peu, ouais, c'est des mentalités différentes, mais c'est ce que je me dis. Il n'y a pas de système idéal, mais c'est vrai que si on arrive à faire un mix des deux, on peut arriver à avoir l'excellence française et l'excellence américaine pour justement créer une identité intéressante et qui va de l'avant.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Avec Mathieu Noël pour les meilleurs moments de la semaine. Lundi, le médecin urgentiste et écrivain Patrick Peloux était venu nous présenter son livre « Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux les derniers jours des grands hommes ».
Je connais un peu dans la vie, c'est un pote. Ce qui fait que je suis un peu gêné aujourd'hui. Je ne sais pas comment je dois appeler l'urgentiste Patrick Peloux. Patrick, Patoche.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Ah oui, pardon. Bonjour docteur Peloux.
Bonjour, ça va ?
Ça va pas mal. On connaît évidemment l'urgentiste, habitué des médias. On va parler évidemment du plan d'urgence pour l'hôpital. Mais cet après-midi, vous venez nous présenter un livre assez feel-good et complètement dans l'esprit culture G de notre émission. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Les derniers jours des grands hommes, de François Ier à Debussy en passant par Napoléon et Jean Jaurès, vous êtes intéressé aux derniers instants des grands de ce monde. Pourquoi, Patrick ? Est-ce que c'est parce que le premier exemplaire avait vachement bien marché ?
Parce que. Mais non, mais ça m'intéressait, c'est un espèce de travail qui a été très long.
Gros travail d'enquête.
Ah oui, énorme, parce qu'en fait j'avais commencé en 2013, puis après avec l'attentat de Charlie, j'ai arrêté pendant 2 ans, donc ça a été long. Mais j'adore ça, j'adore aller dans les bibliothèques, faire ce travail. Et puis c'était un espèce de concept que j'avais trouvé il y a quelques années, qui était de m'intéresser aux derniers instants pour replacer la personne qui est décédée, la personnalité, la célébrité ou pas, dans le contexte médico-psychologique, social et politique, environnemental. Donc voilà, c'est une grande aventure voilà, j'espère que ça va plaire aux gens, parce que c'était ça le but, et puis ça fait un beau voyage.
Est-ce que vous auriez rêvé d'être médecin légiste ?
C'est compliqué. La médecine d'urgence est en fait un carrefour on gère souvent en fait la mort, donc c'est un peu compliqué. Et puis quand on arrive sur des endroits ou au domicile des gens où il y a un cadavre, il faut tout de suite qu'on réfléchisse pour faire un obstacle médico-légal ou pas. Donc il y a une espèce c'est un espèce de carrefour. J'aurais pas pu parce que notamment l'autopsie des enfants, moi j'aurais pas pu. C'était.
Ça va trop loin.
Et puis quand j'étais étudiant, j'étais à l'hôpital Trousseau on faisait à l'époque beaucoup d'autopsies d'enfants et à chaque fois je déclarais que j'avais poney moi. Je pouvais pas. Hein.
C'est la limite que vous
avez. Voilà, j'aurais pas pu.
Alors, on découvre dans ce livre comment sont morts Verlaine, Van Gogh, Frida Kahlo, Debussy, Billy Holiday et Louis de Funès. Alors, de Funès, moi je pensais qu'il était mort en disant au curé «
Foutez-moi le cadre ! Foutez-moi le cadre, je te tape !»
En fait, non.
Non.
Comment ça s'est passé pour Louis de Funès ? Il était cardiaque, il a eu une crise cardiaque.
Il était cardiaque et je remercie encore Olivier et Patrick de Funès parce qu'on a beaucoup parlé de la fin de Louis. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est un livre qui en fait vous rend optimiste sur le fait de vivre en 2019.
Ouais, c'est ça, sur l'évolution de la médecine.
Bah
oui. Ouais.
Parce que Louis de Funès
aurait fait son
infarctus aujourd'hui. Louis de Funès, il aurait tourné encore pendant au moins 40 ans. À l'époque, on les soignait comme on pouvait et c'était en fait avec des complications qui étaient épouvantables. Et Louis est décédé d'un nouvel infarctus à Nantes. Mais la cardiologie à l'époque ne pouvait pas faire les progrès considérables qu'on a aujourd'hui.
Et c'était hier pourtant, ce qui s'est passé en France.
C'était hier.
16h, 18h, L'équipe est sauvage sur Europe 1.
Et c'est le moment qu'elle redoute. Séquence terrible, lourde de conséquences sur sa crédibilité journalistique, qui jour après jour s'effrite comme une médaille en plastique dans une bassine de White Spirit. Oui, pour Eva, ça tourne à l'obsession. La nuit, elle en fait même des cauchemars. Elle se réveille en sursaut, en hurlant.
J'ai l'impression qu'il y a un ours qui va arriver.
Oui, aussi. Mais souvent, elle rêve simplement que c'est l'heure du quiz. Aujourd'hui, face à Patrick Peloux, qui vient de publier un livre sur les morts de gens célèbres, quoi de mieux pour rebondir, Eva, qu'un quiz sur les morts de gens célèbres? Plus précisément, un quiz « J'ai l'air d'un con ». Les derniers jours de ceux qui ont eu une mort particulièrement crétine. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? À vous de me le dire. Alors, on commence. Vous jouez ensemble. En Toscane, à Sienne, un jockey colombien, pendant une course de chevaux, a donné un coup de cravache à côté de sa monture. Résultat, il a tué un autre jockey.
J'adore.
Et bah, Patrick, vrai ou fausse mort?
Moi, j'irais vrai.
Je dirais faux, puisque vous dites vrai, je dis faux. Voilà.
Eh oui, bah, vous êtes encore bien parti dans le quiz, Eva.
Ah non.
Bonne réponse de Patrick Peloux, fausse mort. Mais qui débouche sur l'explication.
Oui.
Par contre, Frank Hayes, en 1923, a eu un infarctus du myocarde en pleine course. Son cheval a quand même gagné, il est le seul jockey mort à avoir
c'est
gagné une course.
Mais
oui.
Mais il est encore sur le cheval ou il est tombé du cheval en passant la ligne?
S'il a été déclaré victorieux, c'est qu'il était sur le cheval.
Ah oui, peut-être. Non, oui.
Je vous le dis, Eva. Je vous le dis.
D'accord.
Faites-moi confiance. Un youtubeur a fait un tuto, comprenez une vidéo, où il expliquait comment arrêter une balle avec un livre. Eh bien, sachez que ça ne marche pas. Eva, Patrick, vrai ou fausse mort?
Ah oui, alors je crois que c'est vrai.
Ça, je pense que c'est vrai.
Vous avez raison, tu es une vraie mort. Juin 2018, Pedro Ruiz a demandé à sa petite copine de lui tirer dessus. Il est mort sur le coup, il avait 22 ans. Bon, ils ont plus d'1 million de vues sur YouTube. Bon,
oui, voilà. Mais enfin, ça sert à rien.
La vidéo est en ligne, mais pas la fin.
Ouais.
Une Russe de 35 ans se filmait en train de montrer ses seins tout en sortant de sa voiture par la vitre côté passager pendant que son ami filmait et conduisait. Personne n'a vu le panneau arriver.
Mais non.
Eva, Patrick Peloux, vrai ou fausse mort?
Non.
Eva.
Non, je pense que c'est pas vraiment cette histoire-là. Donc j'irais plutôt faux.
D'accord.
Moi, je pense que c'est vrai.
Eh oui, Patrick Peloux a raison, Eva. Vraiment.
Elle est stupide.
Reste une piste, Natalia Borodina. Petit ange parti trop tôt. La vidéo est sur le site internet du Mirror, mais la fin de la vidéo n'est pas montrée, évidemment. Eh bien, vous savez quoi, c'est une mort idiote, mais moi, j'ai failli faire la même chose.
Mais vous avez montré vos seins?
Non, alors pas ma tête. Alors, je n'ai pas montré mes seins, mais j'ai mis la main. Je ne sais pas pourquoi. Je revenais de Chamonix, le joli petit train de Chamonix.
Oui.
Et tout à coup, j'ai sorti ma main pour, je sais pas, pour ressentir l'air. Comment faire? Et là, je l'ai enlevé. Et une seconde, mais bon, peut-être 4 secondes après,
un panneau
tunnel,
après
genre comme ça, j'aurais perdu ma main. Donc il faut bien penser à ça. Parfois on fait des gestes comme ça pour sentir l'air frais.
Mais vous avez des trop grands
bras. Énorme bêtise, attention à ne jamais faire ça. Donc Natalia Borodina, je compatis. Novembre 2017, grosse tempête dans le sud de l'Espagne, des inondations, des dégâts sur les bâtiments. Il est demandé à la population de rester chez soi. Un homme de 40 ans décide lui de s'entraîner au basket en tirant des lancers francs. Le panneau de basket va l'écraser. Vrai ou fausse mort?
Je vous laisse allez-y, commencez.
C'est possible,
Ah oui, remarquez, c'est peut-être la tempête qui a fait. Oui, allez, on va dire oui.
Mais c'est tout le concept de la question,
oui,
Eva.
La
vache, comme je dis souvent, encore un bon moment
oui.
de radio. Vous dites oui. Fausse mort. Vous avez faux. Enfin, il n'avait pas choisi ce sport. Il faisait du kitesurf, il a été retrouvé 2 kilomètres plus loin.
Ah!
Et oui, il est décédé aussi. Attention, c'est la question qui va vous départager, même s'il n'y a plus grand chose à départager. Un Américain se dispute avec sa femme. Pour la peine, il va boire des bières en haut d'un pylône électrique. Réflexe habituel à l'issue d'une dispute conjugale. Qui dit bière dit envie pressante.
Ah non,
et se soulager en présence d'électricité, ce n'est pas une bonne idée.
Il a
Eva,
pas fait pipi
Patrick
sur la ligne.
Peloux, vrai ou fausse mort?
Ouais, je pense ça. Alors ça, c'est possible.
Ah ouais, moi je dis que c'est vrai.
Vous avez raison tous les deux. Vrai mort. Et sachez que si vous êtes en haut d'un pylône à haute tension et que vous urinez, vous pouvez vous électrocuter alors que le jet ne touche pas le câble.
Ouais.
Ah oui.
Et oui, c'est une petite info Europe 1 pratique qui peut vous servir.
Voilà.
C'est Patrick Peloux qui remporte le quiz,
évidemment.
Et félicitons tout de même Eva.
Ah oui, Eva
le thème
Eva.
Du quiz
merci
était.
Je donne la victoire.
Le thème du quiz était particulièrement éprouvant pour elle, qui a perdu, vous le savez, un de ses amants dans des conditions assez sottes, elle aussi.
Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a dû pisser sur la ligne à haute tension. Point final.
C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
Ah oui,
toutes nos condoléances, Eva.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
16h24, tout pile, nous sommes avec Mathieu Noël. Eva Rock est là aussi, les chroniqueurs. Et côté invité, le compositeur, chroniqueur musical Alex Jaffray. Il était parmi nous, mercredi.
Ensemble Alex, on continue de parler de votre spectacle Son d'Alex, actuellement les mercredis et jeudis à 20h au Théâtre Le République à Paris. Mais notre folle compétition continue. Qui sera élu chroniqueur du jour? Peut-être, n'en déplaise au cruel Dutheil, notre nouvelle recrue Virginie Fulpin. D'autant que cet après-midi, Virginie, vous avez opté pour une belle histoire.
Oui, je vais vous parler de Hakim Al Araïbi. Il a 26 ans, il a percé très vite dans le foot à Bahreïn. Avant ses 20 ans, il jouait déjà en équipe nationale. Mais son destin de star du ballon rond en devenir a été contrarié. Il y a eu un grand soulèvement populaire à Bahreïn en 2011. Le peuple, majoritairement chiite, s'est opposé à la famille royale, sunnite. Et Hakim Al Araïbi se retrouve accusé d'avoir participé à l'attaque d'un poste de police. Pourtant, il avait un très bon alibi. Au moment des faits, il jouait un match de foot retransmis à la télé.
Ah oui,
c'est difficile de passer à côté,
dans genre
a priori.
Alibi, c'est pas mal.
Mais à Bahreïn, quand on a décidé que quelqu'un était coupable, bah, peu importe les preuves qui vont dans le sens inverse. Donc il raconte qu'il a été emprisonné, il a été torturé, mais quand même autorisé à jouer avec son équipe nationale. Oui, un paradoxe. Et donc avant son procès, il a profité d'un déplacement à l'étranger pour s'enfuir. Il a été condamné par contumace à 10 ans de prison. Et puis pendant des années, Bahreïn a continué à chercher à l'arrêter.
Mais alors, Hakim Al Araïbi a trouvé refuge en Australie.
Oh, il a même obtenu le statut de réfugié. Il joue dans des clubs semi-professionnels en Australie. Et sa lutte contre le pouvoir de Bahreïn a pris une autre dimension. En 2016, il s'est notamment engagé contre la candidature du cheikh Salman à la tête de la FIFA. Et forcément, après ça, Bahreïn a redoublé d'efforts pour le faire arrêter. Il y a un an, Hakim Al Araïbi est parti en voyage de noces en Thaïlande. Mais à sa descente d'avion à Bangkok, une vingtaine de policiers l'attendaient. Prison, menace d'extradition. C'est là que le fait d'être footballeur l'a beaucoup aidé. Il y a eu mobilisation et pression de la FIFA, de l'Australie, d'Amnesty International et de quelques stars du foot, hein, Didier Drogba par exemple. Hakim Al Araïbi a fini par être relâché au mois de février. Aujourd'hui, il se sent redevable. Il veut que son histoire puisse servir le plus grand nombre et il veut jouer un rôle d'ambassadeur pour les droits de l'homme.
Eh ben, c'est une belle histoire, ça, Virginie Fulpin. J'ai entendu. Effectivement.
Et il continue à jouer, ce garçon ?
Oui, il continue à jouer dans des clubs semi-professionnels en Australie.
C'est,
donc, vous n'allez pas le voir
pas
tout de suite à la télé.
C'est pas non plus un cadre du foot.
Non, c'est pas un cadre du foot. Mais enfin, il a été un petit peu contrarié dans sa progression, on peut dire.
Oui. On lui a mis des bâtons dans les roues.
Moi-même, j'étais haltérophile et j'ai eu quelques soucis. Ça me gêne d'en parler là.
C'est vrai que c'est gênant, mais on sent que vous avez le gabarit, effectivement, de l'haltérophile. Alex Jaffray, quelle chanson pour illustrer le foot ? Vous en avez dans votre spectacle ou pas ?
Non, alors ça, c'est ma limite.
C'est votre limite, le sport, c'est pas votre truc.
Non, le truc qui est dingue, c'est que je pense que je suis le garçon qui a fait le plus de musique pour le sport. On a fait la musique du DVD, du Barça, tous les habillages de sport, de Canal, de TF1.
Vous qui êtes derrière tout ça.
Voilà, et en fait, j'ai du mal avec le sport. En vrai, j'aime bien, mais à la télé, je trouve ça j'ai du mal.
Je vais vous dire, c'est une bonne chose que ce soit vous qui vous soyez occupé de créer les musiques pour les émissions de foot, parce que si ça avait été moi, ça aurait donné.
Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux. Et alors, là,
moi, j'avais proposé ça à Canal. Ils m'ont dit, ouais, on bosse aussi avec Alex Jaffray. C'est plus moderne. Ça, c'est pas très moderne. J'ai commencé par moderne.
Jean Lemoyne vous propose une émission dynamique et en noir et en blanc.
Moi, je trouve que c'était pas mal.
Oui, c'était pas mal.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Il est quasiment 16h30 et nous sommes toujours avec Mathieu Noël et avec à présent le trompettiste Ibrahim Malouf. Jeudi, il est venu présenter son nouvel album, baptisé Sens, un album qui nous mène du côté de l'Amérique latine.
Son dernier album, Sens, est disponible. Parfois, on a envie de s'arrêter puis juste d'écouter l'album, en fait. Vous en êtes fier de cet album, Ibrahim ? J'ai trouvé magnifique. Après, ce n'est que mon modeste avis, mais
c'est pas mon style d'être fier.
Vous pouvez pas dire. Vous pouvez pas dire. C'est pas vous
de le dire. Peut-être fier, mais je suis. Enfin, j'ai l'impression que, en tout cas, non, un truc que je peux vous dire parce que c'est vrai que je le dis jamais. C'est la première fois que quand je sors un album, les gens me disent c'est votre meilleur album. C'est la première fois. Ouais. J'ai souvent des bons commentaires puis des mauvais. Je suis honnête. Il y a des gens qui me disent ah j'aime pas, d'autres qui me disent j'aime, etc. Mais celui-ci à chaque fois on me dit c'est votre meilleur album, c'est votre meilleur album. Donc je suis touché en tout cas parce que les gens me disent et donc j'espère que c'est vrai. Enfin je sais pas.
Oh Eva dit toujours la vérité.
Non mais c'est parce que j'ai retrouvé une phrase de Miles Davis qui disait la vérité apparaît quand le musicien trouve son propre son. Et je me suis dit qu'avec cet album vous l'aviez vraiment trouvé votre son, même s'il était très identifiable et qu'avant quand on vous entendait on savait que c'était vous, mais
Je trouve qu'on fasse gaffe avec ce que dit Miles quand même. Hein,
oui,
que...
mais d'accord.
Il en a dit des conneries, Miles. Là. On l'a vu. Hein.
Mais je sais pas, à chaque nouvel album, c'est donc le 11e album studio, et j'ai fait aussi d'autres albums live, mais à chaque nouvel album studio, j'ai l'impression de me rapprocher de quelque chose qui me ressemble. Après, on se transforme aussi, on n'est pas la même personne. Moi, je ne suis pas la même personne il y a 15 ans et aujourd'hui. Et donc, la recherche ne va pas être exactement la même. Mais c'est vrai que cette quête-là, j'ai l'impression d'être de plus en plus juste dans ma recherche.
On continue de parler de cet album Sens, mais la compétition entre dans une phase tout à fait décisive et aussi cocasse, puisque voici un homme qui roule en Nissan Qashqai et qui va à présent nous parler d'une Aston Martin. Jean-Philippe Ballas, heureusement, est un journaliste aguerri qui sait se projeter dans des situations éloignées de son quotidien. En 2013, il avait même frôlé le prix Albert Londres pour son reportage en immersion dans les soirées Bunga Bunga de Silvio Berlusconi, qu'il avait pris le parti de décrire le plus froidement possible.
Ils se pompent les uns les autres.
Oui, mais le mieux, c'est la gueule de votre femme quand elle a appris ce que vous aviez vraiment fait, alors vous lui avez fait croire que c'était un reportage sur la Villa Médicis.
Ah, on avait bien ri ce jour-là.
Que de souvenirs, on l'embrasse. Bref, ne nous éloignons pas de notre thème aujourd'hui, Jean-Philippe. James Bond serait-il sur la sellette?
Alors, je confesse qu'avec Mathieu Noël, nous partageons le même amour des beaux châssis. Mathieu, hashtag passion automobile, hashtag vroom vroom, hashtag tu t'es vu quand tu pollues. Bon, la seule différence, c'est que moi, effectivement, je roule dans un vieux Qashqai hors d'âge, alors que Mathieu, lui, pas du tout. D'ailleurs...
Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire, Jean-Philippe Ballas.
J'ai peut-être trouvé votre prochain modèle, Mathieu. Vous avez tous reconnu la musique de James Bond. La bande-annonce du prochain est sortie hier. Mourir peut attendre, c'est le titre, avec Daniel Craig et son fidèle destrier.
Jérôme Lacroix a un message pour les productions de James Bond, les productions de Brocoli. Oui, le titre est pourri.
Toujours un peu les mêmes titres, le même genre de titre.
Oui, c'est vrai.
Demain ne meurt jamais.
Ouais. C'est la traduction française. Parce que aux États-Unis, c'est quoi le vrai titre en...
Tomorrow Never Dies, c'était le titre dont on parlait. Celui-ci, c'est quoi le titre en anglais? On le sait ou pas?
No Time to Die.
No Time to Die, ça sonne quand même beaucoup mieux, Jean-Philippe Ballas.
Je peux continuer ma chronique?
Vous pouvez.
Alors je vous en parle parce que dans ce film il y a le fidèle destrier de James Bond, c'est son Aston Martin DB5, la seule, la vraie, celle des années 60, celle de Sean Connery, celle de Goldfinger. Et cette DB5 de Goldfinger, bien Aston Martin a décidé de la reproduire en vrai, le modèle mythique à l'identique, c'est-à-dire avec les gadgets de James Bond.
Non.
Oui, une voiture pour vous et moi. Enfin, ici, en l'occurrence, pour vous et moi, c'est plutôt une expression. La production a commencé il y a quelques jours dans l'usine de Newport Pagnell. C'est au nord de Londres. Série limitée, très limitée. Il n'y a que 25 exemplaires.
Non, mais vous imaginez le prix de ce truc?
Je vais vous dire ça. Ah, oui. Il y a toutes les options. Non, mais donnez de sa chance au produit un petit peu, Mathieu.
J'imagine qu'il y a la clim, là. Oui, forcément.
Alors, vous avez les mitraillettes, surtout, qui sortent de derrière les phares.
Elles sont quand même fausses, les mitraillettes.
C'est pour de faux, mais c'est hyper réaliste. J'ai vu les vidéos. Vous avez des plaques d'immatriculation qui pivotent.
Qui tournent.
Comme dans Sean Connery.
Oui, mais donc ça, c'est vachement pratique.
Vous avez l'écran de fumée à l'arrière. Vous avez le bouclier pare-balle qui sort à l'arrière de la voiture. À l'intérieur, vous avez le gros écran radar. Vous avez des petits boutons partout. C'est exactement le cahier des charges de Goldfinger qui a été respecté. Évidemment, ça a un prix. Allez, 3 millions d'euros. Une paille.
3 millions de quoi? D'euros? Ou de livres?
D'euros. Mais si ça se trouve, on peut payer en 3 fois, donc c'est faisable. La livraison des voitures, elle est prévue l'année prochaine. Alors, pour la petite histoire, on se dit que James Bond et Aston Martin, c'est un couple anglais, un couple évident.
Non, il y a eu BMW dans les années...
Oui, et puis il faut savoir qu'au tout début de l'histoire, Aston Martin ne voulait pas participer du tout James Bond. Ils ne voyaient pas l'intérêt. C'est les producteurs qui avaient vraiment insisté. Ils ont eu raison d'insister. Vous avez absolument raison aussi. Aston Martin avait un peu disparu et puis ils reviennent à la charge ces dernières années. Moi, je fais le pari que dans le prochain James Bond, l'Aston Martin, elle sera électrique. Parce que ça, c'est le grand truc de James Bond.
Mais oui.
Il faut coller à l'époque. Et si ça se trouve, cette voiture électrique, elle sera conduite par une femme. Parce que Daniel Craig, il a annoncé que c'était son dernier James Bond.
Une Jane Bond. Ça fait partie des rumeurs qui circulent.
Ouais. Absolument, absolument.
Ouais. Peut-être même une femme noire. Comme ça, on aurait tout le politiquement correct qui serait réuni. Ouais. Ibrahim Malouf, vous êtes fan de la saga James Bond ou pas du tout?
Un peu comme tout le monde. C'est-à-dire, je regarde, mais j'aime bien. Mais pas, je suis pas un dingo.
Vous avez jamais repris le thème de James Bond, la trompette?
Je l'ai jamais repris, mais j'aime bien.
Oui,
quand j'étais plus jeune, on jouait dans les orchestres d'harmonie et on jouait le thème de James Bond.
C'est marrant, on recevait Renaud Capuçon il y a quelques temps qui a sorti un album où il reprend des thèmes de cinéma et il nous disait qu'il avait eu du mal à sortir l'album. Enfin, il avait beaucoup hésité parce que dans son milieu, le classique, qui était assez cucéré, c'était vraiment très très mal vu qu'un grand violoniste reprenne des thèmes aussi vulgaires entre guillemets que James Bond, enfin qui sont pourtant des musiques classiques. Et vous en foutez complètement. Si vous voulez faire un album de reprise, vous allez pas vous...
Ah, je me prends pas la tête. Mais par contre, je comprends ce qu'il veut dire. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est fou parce que la musique classique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si la musique de film n'était pas là, ni en termes de popularité et d'amour pour la musique classique, ni en termes de... tout, en fait, même de style, de couleur.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, c'est tous les jours, même le week-end, en séance de rattrapage. Revivez les moments phares de la semaine passée. Objectif ? Améliorer notre culture générale sans se prendre au sérieux. Des infos, des découvertes, des invités. La suite donc avec Mathieu Noël. On va retourner dans le temps un petit peu, aller quelques jours. C'était mardi sur Europe 1.
L'équipe est sauvage continue avec MC Rock.
Tip top, ça farte.
Moi j'ai envie de vous répondre yo. Oui, c'est l'après-midi, c'est Shuriken et Akhenaten qui nous accompagnent pour la sortie du nouvel album d'IAM. Ils sont effondrés, ils sont effarés.
C'est la Sainte Eva.
C'est tous les jours.
Vrai,
hein.
C'est vrai. Alors messieurs, on l'a dit, cet album Yasuke, il est emblématique des valeurs d'IAM. Courage, respect, métissage. Mais il y a aussi un titre un peu particulier, Once Upon a Time, avec un invité très spécial. Parlez-nous de cet invité particulier, Akhenaton.
L'invité qu'il y a sur ce morceau est arrivé en dernière minute. Je ne l'aurais jamais suggéré de moi-même, parce que c'est compliqué d'inviter son propre fils sur le morceau. Et c'est un de ses tontons qui a suggéré, c'est Kefren qui a dit on devrait mettre Yanis, parce qu'on raconte notre histoire et notre vision du hip-hop, ce qu'on a vécu. Et peut-être mettre la nouvelle génération. Donc mon fils fait du rap, mais il ne s'est jamais annoncé comme étant mon fils. Il a 24 ans. Donc là, mais il va bien se faire remarquer.
Ah ben du coup, là, c'est mort. Non,
il fait son truc de son côté. Et je lui ai toujours dit, tu me feras écouter quand tu te sentiras prêt. Il me dit, écoute, pareil, toi, vous êtes des grands noms dans le rap. Je ne suis pas prêt, ma musique. Et du coup... Je suis le seul, les autres connaissent les morceaux qu'il fait, moi je sais pas. J'attends le jour où il va venir, il va me dire « Papa, écoute
moi,
écoute mes
d'aller
morceaux. »
voir un peu sur...
Est-ce que vous avez regardé, je regarde, vous êtes son parrain ?
Ouais.
Une question pour lui justement, est-ce que vous le poussez dans cette voie-là ou ça vous fait peur ? Vu ce qu'est devenu le rap aujourd'hui, une industrie effectivement avec la culture du clic où il faut toujours être le meilleur, vous disiez ceux qui se perdent un peu en chemin parce qu'ils vont essayer d'avoir du clic plutôt que de rester fidèle à leurs valeurs, est-ce que ça vous fait peur pour lui ?
Que soit lui ou mes autres enfants, je les pousse à absolument rien, je pense que c'est pareil pour Jo, on les laisse... Je leur dis juste qu'il faut se donner le moyen de vivre ses rêves. Le plus important, c'est de se lever tous les matins. Lui, il est passionné par la musique. Se lever le matin en étant content de faire ce qu'on fait, lui, pour lui, le rap, c'est tout. Il est passionné par la culture de cette musique. Bien sûr, il est d'une autre... Des fois, j'échange, il me fait découvrir des groupes, on parle de musique, et il a la passion, et j'ai vraiment pas envie ni de le pousser, ni de le freiner.
On continue d'évoquer votre dernier album, et aussi les racines d'IAM, mais vous le savez ici, c'est une compétition. Tous deux journalistes sont un peu sur la sellette, un seul sera élu chroniqueur du jour, peut-être Ève Roger, actuel leader du classement, mais leader contesté, certains rivaux ayant émis des accusations terribles vendredi dernier. Écoutons Axel de Tarlé, dit Axel la balance.
C'est pas pour balancer, mais Ève Roger, elle fait de la retape et de la recycle. Oui, parce que ce sujet, je l'ai déjà fait ailleurs.
Quand un sujet a été essoré par Tende, petite goutte pour l'équipe sauvage.
Les accusations sont graves, Ève Roger. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colonne.
Oui, mais c'était quand même recyclé.
Non, bon. Alors, je vous défie de retrouver ça sur l'antenne d'Europe.
Ah oui ?
Absolument.
Ah donc c'est vraiment de la médisance d'Axel de Tarlé ? Il sera châtié. Ève Roger, vous êtes leader pour une bonne raison, c'est que vous êtes la meilleure.
Et voilà.
De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Un thème important, pas forcément rieur.
Voilà, je voulais vous parler d'un petit guide pour prévenir les enfants des abus et sexuels et des agressions. Ça s'appelle « Te laisse pas faire » et en fait c'est comme une machine à outils pour leur dire « attention ». Alors le constat il est quand même simple, hein. En France aujourd'hui, si vous prenez une classe de 30 élèves, il y a forcément un élève qui est victime de violences sexuelles.
C'est énorme comme statistique.
C'est fort.
1 sur 30 à peu près. Et dans 70% des cas, c'est une fille et elle a en moyenne 10 ans. Et dans 9 cas sur 10, elle connaît son agresseur. Ce n'est pas un méchant monsieur qu'elle croise dans la rue au hasard. Non seulement elle le connaît, mais elle l'aime. Et c'est la principale raison pour laquelle elle ne veut pas parler, elle ne veut pas le dénoncer. C'est d'abord, et c'est très triste à dire, son père ou son beau-père, ensuite un grand frère, un oncle, un grand-père ou encore un ami de la famille. Et c'est le cas dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Les chatouilles » d'André Abescon et d'Éric Métayer. C'est l'ami de la famille, il s'appelle Gilbert. Et en écoutant cet extrait, vous allez comprendre comment le pédophile tisse sa toile autour de la petite Odette.
Je me demandais si tu ne voudrais pas jouer à la poupée avec moi.
Ah si, un peu, j'en ai plein.
Non, attends. Ce qui serait super, ce serait que... Toi, tu fasses la poupée. Et puis moi, je ferai la petite fille. Comme ça, je pourrais t'habiller, te coiffer. Ça pourrait être rigolo, non ?
Oui, peut-être.
Par contre, tu le dis à personne, hein ? D'accord.
Comment apprendre à Odette qu'elle ne doit pas dire « oui, on va jouer à la poupée » Parce qu'elle a, vous entendez, elle a envie. Elle se demande, elle est naïve. Donc c'est l'objet de ce guide « Te laisse pas faire » qui établit quelques règles. D'abord, dès le plus jeune âge, il faut leur apprendre la différence entre un comportement sexuel sain et un comportement sexuel malsain ou déviant. Et ça passe par l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. L'enfant doit connaître la différence anatomique entre un garçon et une fille, comment on fait des bébés, et surtout que c'est agréable et qu'on y prend du plaisir. On doit lui dire aussi que pour assouvir sa curiosité, il a le droit de jouer, alors je ne sais pas comment vous disiez, à papa et à maman ou à jouer au docteur, mais avec des enfants de son âge et pas avec un grand, jamais avec un grand, même si c'est un grand de la famille, que ce soit un grand frère ou même, hélas, un père. Et préciser ensuite, désigner avec lui des personnes de confiance, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir aller se confier ce qu'on appelle ce secret poison, c'est comme ça que c'est écrit dans le guide, à quelqu'un de confiance, et vous établissez la liste avec lui de ces gens de confiance, que ce soit une tante, une maîtresse, un oncle, ou peut-être même un frère, et être attentif aux réticences peut-être qu'il manifeste quand vous dites est-ce que cette personne-là est ou non une personne de confiance.
Mais si le prédateur est extérieur à la famille?
Alors là, je vous propose une petite étude de cas avec ce récit de Pierre Herbulot, qui est journaliste à la rédaction d'Europe 1. Ça s'est passé en région parisienne le 15 novembre dernier. Écoutez.
Deux hommes qui surprennent l'agresseur et la petite fille à l'arrière de la voiture, tous les deux pantalons baissés. Dès qu'ils ouvrent la portière, l'écolière sort en pleurant et se réfugie derrière l'un de ses sauveurs. L'homme de 76 ans avoue avoir embrassé la jeune fille sur la bouche. Il habite dans le même immeuble qu'elle et lui proposait régulièrement de monter dans sa voiture pour la déposer à l'école ou l'emmener faire des courses.
Et les voilà les pièges. Le voisin, une personnalité familière qui propose de l'aide, accompagner la petite fille à l'école ou faire des courses. Et là, le guide, extrêmement bien fait, propose quelques exercices, des jeux de mise en situation à faire avec l'enfant pour qu'il connaisse ses pièges et qu'il puisse les déjouer.
Les identifier.
On va faire ensemble, par exemple. Est-ce qu'on suit un inconnu qui propose des bonbons ou un jeu vidéo?
Ça,
c'est facile.
Nombre de parents qui nous ont dit ça.
Ça, on le connaît. Ah, oui. Plus difficile, une dame qui a l'air très gentille et qui vient te chercher à l'école de la part de ta maman qui est à l'hôpital.
Normalement, non plus, parce que ça peut Monique Fournier, je ne sais pas comment elle s'appelait.
Non, mais les incites, normalement, ils n'ont pas le droit
de laisser personne.
Déjà, ça, normalement, ça n'arrive pas, parce que... Il faut prévenir.
Et un voisin qui te dit, c'est ta maman qui m'a demandé de venir te chercher. Là, le monsieur de 76 ans, il a peut-être dit à la petite fille, c'est ta maman qui... Donc là, c'est plus difficile aussi. Et le plus tordu, moi, ce que j'ai trouvé dans ces jeux de mise en situation, c'est que faire si un monsieur qui a perdu son chien et qui dit, oh là là, viens m'aider à trouver le chien. Hein, c'est tellement mignon, un petit chien. Ou alors, un autre qui lui propose de venir voir les petits chats qui sont nés chez lui, dans sa maison. Vous voyez, l'enfant, il ne sait pas dire. Donc là, il y a deux règles extrêmement importantes qu'il faut dire aux enfants. On ne suit jamais un inconnu, la voisine, la maîtresse, quiconque, sans l'autorisation expresse des parents. Ça, c'est incontournable. Et puis deux, et c'est ça que je l'ai appris, je n'avais jamais conscientisé ça, c'est que l'enfant doit savoir et intégrer qu'un adulte en difficulté ne doit pas demander de l'aide à un enfant, mais à un autre adulte,
en fait.
Et que l'enfant, il n'est pas là pour aider un adulte.
Bien sûr.
Voilà, donc ce guide, vraiment, ça s'appelle « Te laisse pas faire » et c'est aux éditions de l'Homme.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Une fois par semaine, vous pouvez assister à l'émission, c'est le vendredi. Il y a une semaine lors de l'émission en public, donc le comte de Bouderbala était invité à nous parler de son livre Amazing, dans lequel il revient sur son ancien parcours de sportif. Côté chronique, notre correspondant Lionel Gougelot avait choisi de captiver l'invité avec un sujet parlant d'un vin unique au monde.
Deux heures où décontraction rime avec érudition. D'ailleurs, on peut, je crois, résumer 26 siècles de philosophie ainsi. Face au tourment de la vie, à l'inéluctable fin qui nous attend tous, il y a deux postures métaphysiques possibles. Celle de Sénèque, qui nous disait dans Lettre à Lucius, « Le souverain bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu. » Et puis celle de Garou, dans L'Équipée Sauvage, vendredi dernier, qui nous disait
« On se rencontre dans ma grange, on picole, et c'est parti !»
Je vous laisse deviner quelle est notre position sur le sujet. Et justement, on va parler pinard, mais dans une région où a priori on ne s'y attend pas du tout. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il y avait le Beaujolais nouveau la semaine dernière, voici le Charbonnet, avec un B, Eva. Un vin unique au monde, son vignoble pousse depuis 7 ans sur les coteaux d'un terril de l'ex-bassin midi dans le Pas-de-Calais. Et pour la première fois cette année, le vin a reçu l'autorisation d'être commercialisé. C'est sûr qu'avant, à 47%, il n'avait pas reçu l'autorisation, hein, Lionel, c'est ça?
C'est surtout une question de réglementation européenne, en fait, qui autorise maintenant les régions qui ne sont pas de tradition viticole à vendre au public le vin produit localement. Il s'agit d'une vigne qui a été plantée sur un terril, donc situé à Haillicourt, exposition plein sud, un chardonnay rebaptisé donc charbonnet, hein, vous l'avez compris, charbon, terril, vous l'avez, c'est bon?
Je Je l'ai, Lionel.
C'est un blanc de grande qualité que m'a décrit Aurélien Chuteau. Il est caviste à Lille et donc il va le mettre en vente à partir d'aujourd'hui.
C'est un vin qui a beaucoup de personnalité, qui est très équilibré, maîtrisé. On retrouve les notes typiques du cépage qui est utilisé, donc le chardonnay, d'où le nom charbonnet, parce qu'on vient d'un résidu minier qui est le terril. Et on retrouve ces notes aromatiques, agrumes, fruits exotiques. Et puis on retrouve des notes un petit peu d'élevage, boisées, légèrement toasté, et puis cette opulence qui est assez propre au charbonnet, on pourrait se dire on est dans une zone très septentrionale où il fait frais et où le vin manquerait d'alcool. C'est pas le cas, le vin arrive à avoir un bon degré d'alcool et à avoir une très belle assise aromatique.
Ça, on vous fait confiance dans le Nord pour arriver à un bon degré d'alcool.
Oui, ça va.
Donc c'est un vin de grande qualité, Lionel.
Oui, c'est un vin qui étonne d'ailleurs les connaisseurs. Alors pour l'instant, la production est assez limitée, hein, moins de 1000 bouteilles, et puis la vente se fait sur commande. Alors il faut pas courir hein, ce soir chez les cavistes pour acheter le vin. Il n'y en aura pas. Et en fait, il est assez cher. 50 euros la bouteille, voilà. Mathieu.
Eh oui, mais ça peut devenir spéculatif, tout ça, en fait. Comme la rareté crée la valeur. Et alors, on le boit avec quoi, ce petit blanc?
Il est idéal avec un fromage, notamment un fromage du Nord.
On le mange avec quoi? Parce que si vous dites on le boit avec quoi, ça fait...
On peut le boire avec
avec un verre.
Oui, alors voilà. Très bonne réflexion d'Eva, là. Vous êtes complètement emmêlé les pinceaux. On le mange avec quoi? Vous avez dit on mange un vin avec quelque chose?
Non, on le boit.
On le boit, Eva.
Oui. Ah oui, c'est moi qui ai
complètement... la vache. Donc, on le boit avec quoi, ce vin, cher Lionel? Excusez-la.
C'est pas grave. Ce charbonnet, il est idéal avec un fromage du Nord, un bon maroilles, dont vous fleurez d'ici, j'imagine, la croûte fleurie. Mais il est bon aussi avec des poissons fumés ou non, des volailles. Et alors, figurez-vous que c'est un vin qui se garde également plusieurs années. Alors, comme il est relativement jeune dans la production, on va attendre de voir ce que ça va donner. Mais tous les spécialistes disent qu'effectivement, il a toutes les qualités pour se garder plusieurs années.
Un vin de garde, donc, que
avec
ce charbonnet,
modération.
Et évidemment avec beaucoup de modération, mais à 50 euros la bouteille, on est forcé, on est contraint à la modération. C'est ça qui est bien avec le charbonnet. Merci beaucoup, Lionel Gougelot.
Salut Mathieu, bonne soirée à tous.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage.
Et on va rester avec Mathieu Noël et avec à présent le monsieur innovation d'Europe 1, Anis Mbida, dont on va découvrir le sujet, et ce en présence du médecin urgentiste Patrick Pelou. C'était lundi sur Europe 1.
Il a su rester simple, sympa, accessible. Ce matin, il avait même pensé à m'apporter un paquet.
Voilà mon linge, vous le ferez à 40 et à la main.
Bon, Anis Mbida, parfois on a du mal à voir. À quoi peut servir une technologie de pointe? Mais là, aujourd'hui, on va comprendre très concrètement.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, mais ils ont beaucoup de difficultés à parler. Je le disais tout à l'heure, on imagine surtout les tremblements, mais 90% des personnes, et là je parle sous contrôle de mon aidé, ont des problèmes à parler, parlent beaucoup moins fort et beaucoup moins distinctement. Alors on peut faire de la rééducation, faire de l'orthophonie, mais il existe aujourd'hui une application gratuite et un tout petit appareil qu'on se met sur l'oreille, et on va écouter justement comment cet appareil assez magique fait parler tout de suite la personne beaucoup plus fort et beaucoup plus distinctement. Alors on écoute ce son en anglais, c'est une personne qui parle en anglais, mais de l'arc-en-ciel.
The rainbow is a division of white light into many beautiful colors.
Alors ça, c'est la personne sans l'appareil, et une fois qu'on active l'appareil, écoutez comment elle parle beaucoup plus fort.
The rainbow is a division of white light into many beautiful colors.
Wow. Donc ça marche super bien.
Voilà, il y a rien, il y a pas d'opération chirurgicale, rien du tout, juste un tout petit appareil, soit une application, soit ce petit appareil. Alors l'appareil ressemble à un sonotone, mais qui fonctionne à l'envers. En fait, il envoie un petit son pendant que la personne est en train de parler, et ça active un réflexe, le réflexe de lombaire, ce réflexe nous fait automatiquement parler plus fort et beaucoup plus distinctement.
C'est génial.
Et ce qui est formidable, alors c'est un appareil qui a été développé par l'université de Purdue aux États-Unis, et ce qui est intéressant, c'est que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative, c'est la deuxième maladie neurodégénérative derrière la maladie d'Alzheimer, et souvent pour soigner ce type de maladie, on est obligé de faire des opérations extrêmement invasives, on est obligé d'aller directement poser des électrodes dans le cerveau.
Ça c'est encore très
très lourd. Et là, ce qui est très intéressant avec cet appareil, c'est soit vous utilisez vos oreillettes traditionnelles de votre téléphone portable, soit vous mettez cette espèce de sonotone, et automatiquement, dès qu'on va parler, il va rajouter un petit son comme ça qui va nous perturber, mais qui va nous permettre, quand on est atteint de cette maladie, de parler beaucoup plus fort et de beaucoup plus distinctement. Et ce que je trouve formidable dans cette innovation, déjà, c'est qu'elle n'est pas invasive, elle est beaucoup plus pratique, c'est gratuit, c'est une application que tout le monde peut télécharger. Et surtout, c'est que ça va ramener de la communication. Vous savez que demain, c'est la journée internationale pour les handicapés. Quand on a du mal à communiquer, on a tendance à s'isoler, à se retrouver un petit peu seul, ne plus communiquer avec personne. Mais ce type d'innovation, non seulement Ce n'est pas invasif, c'est quelque chose qui va rapprocher les gens, qui va permettre de communiquer avec les personnes et leurs familles qui sont atteintes de cette maladie.
Ça s'appelle comment l'application?
L'application s'appelle Speech Vive, c'est une application
c'est
gratuite.
C'est disponible en
oui,
France.
Oui, c'est gratuit, c'est disponible depuis quelques jours en France. Et sinon, il y a l'appareil un peu Sonotone qui peut régler le problème des personnes atteintes de cette maladie.
Merci beaucoup, Anissé Hamida. Axel, une réaction fair play à cette très belle chronique d'Anissé?
J'ai rien compris.
Parfait, merci pour votre honnêteté, Axel. Patrick Pelou, c'est l'avenir, ce genre d'application? Ça peut aider?
En fait, on rentre dans un domaine, là, on est à la porte de l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de ce que ça va faire dans la médecine, de ce que ça va faire pour les malades. Donc, c'est intéressant. Faut, en effet, comme vous dites, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Mmh. Oui, c'est ça l'enjeu.
C'est ça l'enjeu, gratuit. Ouais.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h.
Et l'équipe est sauvage se poursuit juste après les infos de 17h avec Mathieu Noël, Eva Rock, nos journalistes compétiteurs et les invités de la semaine passée, parmi lesquels le trompettiste Ibrahim Malouf. Il était venu nous parler de son nouvel album Sens.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Place à la seconde partie de cette compilation joyeuse et érudite, les moments phares de la semaine écoulée en compagnie de Mathieu Noël, de son acolyte Eva Rock, bien sûr, les compétiteurs, chroniqueurs et les invités. Durant cette heure, on va retrouver bien sûr plein de sujets. Eva Rock a testé une expo, on va vous parler aussi d'un sport unique qui a lieu en Angleterre et qui se pratique une seule fois dans l'année. On va parler voiture et puis du côté des invités, on va bien sûr retrouver le médecin urgentiste Patrick Pelou, Akhenaton Shuriken du groupe IAM, le chroniqueur musical et compositeur Axel Jaffray, le comte de Boudherbala et le trompettiste Ibrahim Malouf.
Vous vous souvenez du film Vol au-dessus d'un nid de coucou? C'est mon quotidien.
Oh non.
Oh oui. Entre une co-animatrice érotomane qui ne pense qu'à une chose, pécho l'invité.
Ah ouais.
Une baba cool décroissante qui parle aux insectes.
Ils font à la fois crrr crrr et bzzz.
Et un féru de Wagner qui se parle à lui-même.
Calmez-vous.
Je peux vous dire que mes après-midi ne sont pas de tout repos. Heureusement, vous êtes là, Ibrahim Malouf, avec un nouvel album. Sens. Vous vous souvenez du moment où vous débutez l'écriture de ce nouvel album? C'est quoi le déclencheur pour chaque nouvel album?
Comme d'habitude, quand je travaille sur des compos, j'improvise, j'invente des choses tout seul quand je suis chez moi ou avec des potes musiciens quand on est ensemble en studio. Et ça part d'impro, ça part d'idées improvisées. Et après, plusieurs jours après, tac, il y a la mélodie que j'avais faite en impro il y a 2 semaines ou il y a 10 jours qui me revient en tête alors qu'il n'y avait rien qui l'appelait particulièrement. Et je me dis, tiens, c'est marrant que je m'en souvienne encore et je vais la rebosser. Et puis, je finis par aller en studio puis les rebosser avec les musiciens.
Chose incroyable quand on connaît votre don pour cet instrument. Il paraît que ça n'a pas été évident tout de suite, la trompette, que ça vous a valu quelques migraines au début.
J'en ai toujours.
C'est vrai?
Mais en fait, c'est un instrument qui est un peu particulier parce que...
En quoi?
D'abord, il est très éprouvant physiquement. Il y a quelques instruments comme ça qui sont éprouvants, mais celui-ci particulièrement, d'abord parce que ça, c'est physique, donc... Donc ça, je ne sais pas si vous voyez, mais mes lèvres sont un peu défoncées quand même. Hein. Je sais pas si
vous devez mettre beaucoup de labello.
J'ai des cicatrices, des bleus et tout. Bon, alors ça c'est un aspect, c'est comme les boxeurs, ils se prennent des coups puis voilà, et on accepte. Donc c'est pas très très beau, mais c'est comme ça. Mais et surtout, ça impacte le battement cardiaque. Donc quand tu fais 2 heures de concert ou pendant 2 heures tu fais de l'hyperventilation, de l'apnée, du machin, non-stop pendant 2 heures, où tu n'as jamais un moment où tu respires normalement, et t'es sous pression, il y a un moment où tu sors de concert, t'es pas bien.
C'est pas bon pour la santé, la trompette.
Moi je crois, il y a beaucoup de trompettistes qui ont développé des arythmies cardiaques, donc je pense que...
Donc vous êtes suivi? Faites attention.
Non.
Il faudrait.
Mais il faudrait. Ouais. Je suis pas très... comment on dit je suis pas hypochondriaque.
Hypochondriaque. Ah.
Mais alors, pardon Ibrahim, vous dites ça, mais en plus, quand on vous voit sur scène, où vous sautez dans tous les sens, où vous occupez la scène, j'imagine que c'est double peine, là. C'est à la fois le côté physique de la trompette, mais aussi le fait d'être un showman.
Je crois qu'il y a l'adrénaline et l'amour de la scène qui font que ça couvre largement toutes les éventuelles... Mais ça m'est arrivé... 2 ou 3 fois en 20 ans de scène, de faire des petits malaises sur scène, mais ça se voit pas, les gens le voient pas, et heureusement d'ailleurs, sinon ça casse un peu la magie. Mais du coup, je fais un peu attention. Ouais.
Vous perdez combien de kilos à la fin de chaque concert?
Mais surtout, je me suis rendu compte que j'ai pas faim, alors que je mange pas avant les concerts pour pouvoir être en forme. Et après le concert, j'ai tellement soufflé, tellement été fatigué que j'ai plus, même plus faim, je peux même plus rien manger.
C'est le régime idéal, Eva.
Oui. Pourquoi
ah non, 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 je vous regarde, je pense à moi, je pense à moi, je ne me permettrai pas, mais vous
c'est
me prenez,
pour, ça,
vous me prenez pour un goujat, mais pas du tout, mais enfin,
d'accord.
Eva, vous êtes fine comme un roseau.
Ouais, c'est ça.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Gardez un œil sur les nouveautés, c'est aussi la mission de l'équipe est sauvage. Or, mon cher Ibrahim Malouf, après les victoires de la musique, les victoires du jazz et celles du classique, je vous présente une nouvelle cérémonie, celle récompensant les artistes s'étant produit à l'Olympia. La première édition des Olympia Awards aura lieu la semaine prochaine, le 11 décembre. Cérémonie qui sera présentée par Antoine Decaune avec plusieurs catégories, dont humoriste de l'année. Nous sommes justement en ligne avec un des heureux nommés. C'est un comédien qu'on adore ici, mais avec qui on joue de malchance puisqu'il est le seul artiste à être venu dans notre émission et l'émission n'a pas été diffusée. Oui, c'était en octobre dernier. On venait de finir l'enregistrement. Paf, Chirac meurt. Foutu gâchis. Bonjour François-Xavier de Maison.
Bonjour, comment ça va?
Bah ça va pas mal, mieux que la dernière fois, on n'avait pas eu de chance.
C'est vrai, je me souviens bien, on s'était bien amusé d'ailleurs.
Bah oui, alors je sais que vous regrettez que notre émission n'ait pas été diffusée, comme vous regrettez d'ailleurs l'absence de la catégorie meilleur intervieweur de l'année dans cette cérémonie, où j'aurais clairement eu mes chances, souvenez-vous. Vous avez déjà 3 enfants si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Bref, mon cher François-Xavier, la semaine prochaine, le suspense est quasi nul, la victoire c'est pour vous, c'est vous le meilleur humoriste, tout simplement, point barre, pourquoi non, faire cette cérémonie?
Non, honnêtement, je pense que face aux jeunes et à leur communauté de millions de followers, j'ai quand même assez peu de chance. Je pense que face à des gens comme Kev Adams,
Farid,
qui a 5 millions de Farid,
ouais,
ou Camille Lelouch, c'est des millions de followers. Tout ça. Mais bon, je suis quand même très flatté d'être nommé. Ça me fait très plaisir et puis je vais y aller avec plaisir pour passer une bonne soirée. Voilà.
Cette salle de l'Olympia, vous la connaissez, vous y avez joué.
Ah, j'adore.
Et qu'est-ce qu'elle j'adore. Est-ce qu'elle a vraiment quelque chose? Nous, on n'est jamais passé à l'Olympia. Qu'est-ce qu'elle a de particulier pour un artiste, cette salle?
Ben écoutez, mis à part le fait d'aller aux toilettes dans les mêmes chiottes qu'Edith Piaf, effectivement, c'est il y a quelque chose de un rapport scène-salle assez exceptionnel au niveau du son. Voilà, une présence comme ça du public avec vous qui est extraordinaire. C'est vrai que ce dernier spectacle, je l'ai joué 12 fois à l'Olympia. Et ça a été un vrai, vrai bonheur. Quoi. Le premier soir, on a vraiment le trac, on se dit c'est l'Olympia. Et puis le deuxième soir, vous vous sentez déjà un peu chez vous. Et quand, à la fin de la série, vous ne pouvez plus partir. Quoi. On est obligé de vous envoyer le vigile.
Pour vous dégager. François-Xavier Delon, je crois savoir que vous remontez sur les planches au mois de février. Mais là, vous n'êtes pas seul en scène. Hein. C'est une pièce,
exactement,
nez à nez, avec François Berléand.
François Berléand.
Vous êtes prêt, là? Vous connaissez votre texte ou il y a encore...
Bah, écoutez, c'est une... je suis en train de travailler. voilà.
Ah oui
voilà.
Ah bah, travaillez bien, alors, François-Xavier. Soyez prêt pour février. Donc, merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Je rappelle, un vrai plaisir.
Je rappelle que vous êtes nommé dans la catégorie spectacle d'humour de l'année aux Olympia Awards.
Et François-Xavier de Maison l'a bien précisé, c'est à vous de voter pour vos artistes et vos spectacles préférés. Ça se passe sur le site mycanal.fr. Quelques clics et puis c'est dans la boîte. Et puis pendant la cérémonie mercredi soir qui sera diffusée sur C8, vous pourrez également élire le concert de l'année.
Un petit bisou à Ibrahim Malouf qui est notre invité aujourd'hui. Ah bon. François-Xavier de Maison.
Salut.
Que j'adore.
Comment vas-tu?
Bonjour, ça va bien.
Quel lien tu entretiens du coup avec Chirac?
Ça
se passe bien?
C'est une nostalgie teintée d'amertume.
Ah oui. on le dira comme ça, c'est un bel euphémisme. Merci François-Xavier de Maison d'avoir été avec nous.
À bientôt les amis.
Bonne journée.
Salut.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
On a rassemblé les moments essentiels de la semaine passée comme chaque week-end et on va retrouver bien sûr Mathieu Noël autour duquel se sont installés Eva Rock, sa grande complice. Et à présent, Axel de Tarlet, dont on va découvrir le sujet. C'était mercredi, en présence d'Alex Jaffré, toujours en spectacle au Théâtre République à Paris, pour son spectacle « Le son d'Alex ».
Vous connaissez évidemment Jean-Michel Patchute.
Ah bah, je suis allé à Bruxelles cet été, et là-bas, les femmes sont toujours à l'heure.
Je vous présente son fils spirituel, Axel Patchute.
Et c'est quand même un problème pour Emmanuel Macron, parce que s'il finit par reculer... Je sais pas comment terminer ma chronique, mais tout ça pour dire que la grève à la SNCF pourrait être longue.
Belle fin,
hein.
Mais oui.
J'ai le sens de la chute.
Axel de Tarlet, aujourd'hui, peut-être aurez-vous pensé à prévoir une fin à votre papier. Vous nous parlez d'un tournant historique dans l'industrie automobile qui va avoir des conséquences sur nos entreprises.
Oui, c'est le marché de l'automobile. Tous les acteurs étaient réunis à Bercy en début de semaine parce qu'en fait, ça va très mal. Pourquoi ça va très mal ? À cause de la transition vers l'électrique. Ce qui fait que, d'abord, les gens n'achètent plus de voitures. Bah, eux, ce qu'ils se disent, si j'achète une voiture essence ou diesel, on risque de m'interdire l'accès dans les grandes villes. Alors, vous pouvez dire, c'est 2030. Mais sauf que le type, il l'achète maintenant, il dit, je vais la revendre en 2027. Mais en 2027, qui va me l'acheter? Parce qu'il ne pourra pas s'en servir dans les grandes villes. Donc, si vous voulez, Ça bloque l'achat de voitures à l'ancienne. Donc, et c'est à ce moment-là, donc du coup, toute la filière diesel en France est à raplapla, parce qu'il y a beaucoup moins de commandes, donc ils sont en train de... On a quand même 10 à 15 000 emplois qui sont menacés dans toute cette filière. Et alors, on leur dit, mais allez vers l'électrique. Le problème, c'est que l'électrique, les gens ne l'achètent pas. Et que de toute façon...
Pas encore, peut-être.
Ouais, pas encore, voilà. C'est 1%, voilà. C'est ce qu'on espère, mais le patron de BMW dit les gens n'en veulent pas de la voiture électrique, parce qu'ils ont peur de tomber en panne au bout de 400-500 km.
C'est comme le jazz. Le jazz, tout le monde dit j'adore le jazz, mais personne n'achète de 10. Voilà. Et je pense que la voiture électrique, c'est pareil. J'adore la voiture électrique. T'en l'achètes ? Non, jamais. Non,
c'est très bien même vu combat. Ça, avec Jeffrey.
Et voilà, exactement. Et puis en plus, dans la voiture électrique, toutes les batteries viennent d'Asie, donc ça donne pas de boulot pour les Européens. Alors, dans toute cette mise et c'était un peu le but, parce qu'il faut être positif dans une chronique, hein, pendant qu'on ait envie de voter pour moi, il faut quand même que je raconte une belle histoire.
Vous n'oubliez pas n'importe quoi non plus, Axel.
Votez pour moi, maître.
On dirait Gollum.
Je vais faire ma chronique en majeur, comme vous dites. Hein.
C'est beau.
Voilà, mettez-vous en majeur. C'est pas le petit chat qui meurt, moi. Hein. C'est le petit chat qui vous sourit. Voilà. Et donc, ce petit chat qui vous sourit s'appelle Michelin. Le seul qui se réjouit de la transition vers l'électrique, c'est Michelin. Pourquoi ? Parce que, on l'a dit, le problème de la voiture électrique, c'est l'autonomie de la batterie. Donc, il faut une voiture qui consomme le moins possible d'électricité. Or, vous savez qu'un tiers de l'énergie dans une voiture, c'est le pneu qui la consomme. Le pneu qui va s'échauffer, qui va au contact de la route, qui va se déformer. Et donc, Michelin, comme c'est les meilleurs pneus du monde, ils disent si vous voulez que votre batterie dure plus longtemps, équipez-vous d'excellence en matière de pneus, équipez-vous de pneus Michelin.
Alex, j'aimerais que vous passiez en mode mineur, s'il vous plaît. Car Michelin a annoncé la fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon, Axel. Donc, c'est fini.
Alors voilà, on peut se dire...
Je vais te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Ton pneu, il sera en bois. Tu vois ?
Alors voilà, pourquoi est-ce que Michelin...
Ça va pas si bien que ça pour les pneus.
Ils se plaignent de la concurrence des pneus asiatiques qui ont pris un tiers du marché. Et ils disent la grande escroquerie avec ces pneus asiatiques, c'est que si vous voulez, les homologations sont faites sur des pneus neufs. Le problème, c'est quand vous avez roulé 1000 km... Alors moi, je fais la com de Michelin, là, hein, je vous dis tout de suite.
Oui, je vois ça.
Le pneu asiatique... Il va perdre toute adhérence, alors que le pneu Michelin, au bout de 1000 km, qui sera, c'est vrai, deux fois plus cher, il y a des tests qui ont été faits, il y a une vidéo d'ailleurs, en présence d'Emmanuel Macron, alors c'était sur le circuit quand il était en déplacement à Clermont-Ferrand, qui montre que sur un sol mouillé, avec un pneu asiatique, le retard de freinage, c'est 5 à 15 mètres. Hein. Tout ça pour dire que, même si je dépasse un peu pour trouver une chute, c'est l'excellence qui paye. L'excellence vous protège. Ce qu'il ne faut pas dans ce nouveau monde ultra compétitif, c'est être milieu de gamme. Et l'excellence, vous venez d'en avoir la démonstration façon chronique.
Mon Dieu, vous avez pas de musique pour ça, Alex Jaffray.
Non, j'ai Albinoni, un truc comme ça, genre l'adagio, une musique de chanteur mort, un truc comme ça.
C'est ça qui conviendrait mieux.
C'est très beau.
C'est très beau.
C'est très beau.
Europe 1, 16h, 18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël pour emmener cette équipe est sauvage, il est 17h, pratiquement 21. Akhenaton, Shuriken du groupe IAM était venu ce mardi nous parler de leur nouvel album Yakusé. Et ils ont pu découvrir le sujet de Jérôme Lacroix, car l'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition.
Sportif jusque dans son intimité, puisque pas plus tard qu'hier, dans le lit conjugal, il donnait encore des conseils à son épouse pour optimiser leur performance.
Ce qu'il faut, c'est varier des différences de rythme, comme au foot, je cours, je long.
Jérôme Lacroix, c'est d'autres sports dont vous nous parlez aujourd'hui, mais certains sont encore plus acrobatiques.
D'abord l'hymne britannique, pour dire merci. Merci à nos amis anglais d'avoir inventé le jeu dont je vais vous parler cet après-midi, qualifié par certains des esprits moqueurs, voire condescendants, de sport le plus con du monde, trouvé dans la presse suisse, Mathieu Noël, comme par hasard, dans le journal Le Temps. Bon. Ouais. Ce jeu s'appelle le Wall Game. Alors, je parie que vous n'avez jamais entendu le nom, peut-être je m'avance, mais pourtant il existe depuis au moins 253 ans, 1766, première partie recensée. L'édition 2019 a eu lieu il y a 10 jours en Angleterre.
Ah, il y a quand même des gens qui pratiquent, c'est pas anecdotique.
Devant des centaines de personnes. Bon. C'est un sport de ballon, pour lequel pas de championnat, pas de ligue, ni même de fédération, c'est un sport de collège. Il se pratique uniquement au sein de l'un des plus prestigieux collèges du Royaume-Uni, le King's College, à Eton.
Et qui a fréquenté le King's College autour de cette table?
Vous allez...
C'est Lily.
C'est vrai ?
Oui, bien sûr, ah, bah, oui, mon année d'échange.
Ah bah dis donc,
oui. C'est Ayrton. J'ai pas foutu oui. grand-chose, hein.
Oui,
j'ai
voilà, fait beaucoup c'est de sport.
Vous n'avez pas joué au World Game.
Non, j'ai pas joué au World Game, j'étais pas... J'étais
à mon avis, il y a beaucoup de bastons, vous avez évité.
Il y avait un mec qui avait une grosse voix comme Shuriken, j'y suis pas allé.
Il a fui, c'est près de Windsor. Alors, c'est un match unique, un samedi vers la fin du mois de novembre. Il oppose les étudiants de ce collège. Deux équipes de 10 à ma gauche, les Opidans, les externes. À ma droite, les Collegers, les internes. Le but, c'est un peu comme au foot américain, c'est d'amener le ballon jusqu'à une zone derrière l'équipe adverse. Sauf que ce qui est singulier, c'est le terrain sur lequel se dispute cette rencontre.
Mais j'imagine qu'il y a un mur dans l'histoire, puisque ça s'appelle le wall game.
Alors, on joue sur de l'herbe, il faut imaginer un couloir. 110 mètres de long, couloir matérialisé par, d'un côté, une ligne blanche continue, au-delà de laquelle le ballon est hors jeu, hein, s'il l'a franchi, et de l'autre, un mur de briques pour une largeur de seulement 5 mètres. Et là-dessus, on va mettre 20 types et un ballon. Alors, comment ça se passe concrètement, les parties ? Très vite, le ballon se retrouve coincé contre le mur. Je vous montre des photos si vous êtes avec nous sur europe1.fr. En fait, le ballon se retrouve coincé contre le mur, puisque de l'autre côté, il sort de l'aire de jeu et tous les joueurs qui s'agglutinent, un peu comme une mêlée au rugby.
Le mur de briques rouges, on est vraiment.
Pugilat général avec en prime ecchymose, éraflure sur les coudes, les jambes et même parfois la tête. C'est dû au frottement des joueurs contre le mur.
Franchement, ça ressemble surtout à du grand n'importe quoi, ce wall game.
Il y a des règles très strictes. On n'a pas le droit de courir avec le ballon, par exemple. Il faut faire des passes.
Ah, ça, ça me va bien. Ça.
Et uniquement vers l'arrière. Si vous atteignez l'embut, si jamais vous y arrivez, l'embut adverse, votre point ne sera validé que si au moins l'une des parties de votre corps est en contact avec le mur. Donc, vous voyez, il faut faire faut
n'importe quelle partie de votre corps.
N'importe laquelle. Il y a aussi un cérémonial très précis pour lancer la partie. Les Opidans, les externes, y jettent chacun une casquette sur le terrain, casquette type années 20, parce qu'il y a aussi un uniforme. Le défi est lancé et les Collegers, les internes, montrent qu'ils acceptent en marchant vers eux d'une seule ligne, en se tenant par les coudes, ils font comme un AK. Et là, c'est parti pour 2 fois 30 minutes. Et alors, le sel de ce jeu, je vous disais, 253 ans d'histoire, et ben ça fait 110 ans qu'aucun point, qu'aucun but n'a été marqué lors d'un match. Ça finit toujours à 0-0.
C'est pour ça que les délais sont pas chers, parce qu'il se passe rien.
Alors, 110 ans que ce sport attend son but, et pourtant, il y en a eu des joueurs prestigieux qui ont participé. Si je vous dis Eric Blair, est-ce que vous savez qui c'est ?
Le frère de Tony.
Non, c'est George Orwell, l'auteur de 1984. 1921, il a 18 ans, il participe. Il y a aussi eu des célèbres Prime Ministers, Harold Macmillan, 1909, et plus près de nous, Boris Johnson, l'actuel Premier ministre.
La photo. Je montre la photo sur europe1.fr.
Je comprends le sport maintenant.
Oui, moi aussi.
Okay.
Il était capitaine des externes en 1982. Alors, c'est un sport traditionnel, bien sûr, mais c'est loin d'être le seul un peu saugrenu. Vous avez par exemple l'Ombashira au Japon. Des hommes chevauchent d'immenses troncs d'arbres sur la descente d'une colline en essayant de ne pas écraser la foule qui est très compacte.
Ah, c'est sympa.
Il y a aussi par exemple le Chadjai, j'espère que je prononce bien, en Amérique centrale. C'est un jeu hérité des Mayas. Alors là, le but est de se passer la balle en la touchant avec tout, sauf avec les mains et les pieds, donc les coudes, les genoux, les cuisses, que vous voulez. Et parfois, la balle est en feu.
Bah oui, parce que sinon c'est trop simple. Si la balle n'est pas
oui,
en feu,
c'est pas rigolo.
Effectivement, Shuriken.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Des infos, des découvertes et de la bonne humeur, c'est la formule consacrée de l'équipe est sauvage. Nous sommes avec Mathieu Noël pour les moments essentiels de la semaine passée. Alors vendredi dernier, lors de l'émission en public, le 29 novembre donc, Samy Amezian, alias le comte de Bouderbala, était venu nous parler de son livre Amazing, parce qu'il a vécu une belle aventure durant 15 ans aux États-Unis. Avant de briller sur les planches, en effet, il s'est illustré sur les parquets des salles de basket.
Il est humoriste, mais il a bien failli être Kobe Bryant. Ça s'est joué, comme il nous disait tout à l'heure, à 20 cm.
Ah bah ouais, c'est, on peut dire ça comme ça. Il est bon, Mathieu Noël, il est bon.
Je sais flatter l'invité. Non, vous jouiez au poste de Tony Parker, vous étiez meneur.
Ouais, meneur.
C'est mais en fait le seul poste auquel on peut jouer à très haut niveau quand on mesure. Vous mesurez combien ?
Oh, moi, je suis au ras des pâquerettes. Hein. Je suis à 1,74. Sur le passeport, 1,79 parce que j'ai des connivences au niveau administratif. Mais non, je suis Tony Parker. Moi, c'est Tony Parterre. Donc, vraiment, ras du sol. Mais c'est grâce à Parker que j'ai été pris dans cette équipe de UConn, hein, mine de rien.
Parce
que la deuxième phrase que le coach me pose, en fait, ce qui se passe, si vous lisez le livre, mes chers amis, c'est qu'à un moment, je rencontre le coach principal de l'équipe de UConn à la suite d'une coupe chez la coiffeuse du campus.
Et
la
Holly.
Voilà, Holly. La Sainte. Et donc, Kaloun, le coach, me pose une première question. Il me dit, est-ce que c'est toi le basketteur français? Je lui dis oui. Et la seconde question, il me dit, est-ce que tu as déjà joué avec Parker? Parce qu'à l'époque, Parker cassait le championnat NBA. Il était champion en titre, il faisait une saison exceptionnelle et ça devenait une référence européenne aux États-Unis, ce qui est très très rare. Et donc, c'est la seconde question qu'il me pose. Et grâce à Parker, moi je dis au coach, bah ouais, j'ai pas joué avec lui, mais j'ai joué contre lui. Il me dit, bah viens dans mon bureau. Et là,
commence. Je me suis fait défoncer par Parker. Allez, c'est bien, viens dans mon bureau, tu vas dire dans mon équipe.
Ah, mais c'est ça, parce c'est que ça. Parker, c'est une référence.
Alors, vous appelez Sami Amezian et ça a donné un bon surnom. Le titre du livre Amazing, c'est pas parce que le parcours est amazing seulement, c'est aussi parce que c'était votre surnom en fait. Comment c'est venu ça?
C'est venu parce que pendant un match, moi je rentrais à la fin du match quand le match était plié et qu'il y avait 60 points d'écart, donc le coach me regardait, ok motherfucker you can go, et ça s'est vraiment passé comme ça, et donc première fois je rentre sur le terrain, il me fait jouer voilà, 1 minute 32 minutes, et j'arrive à mettre un 3 points, une interception et un panier derrière, donc 5 points, une interception et en 1 minute. Donc, le commentateur essaie, parce que j'étais le seul joueur qui n'avait pas de nom derrière son maillot. Imagine un peu le niveau de respect qu'il y avait dans cette équipe. Et donc, les mecs, le commentateur essaie de prononcer mon nom, mais en anglais, il galérait. Et donc, il était là, Amezayan, Anamezanaï, Amazananaï, Amazing, let's go for Amazing. Et donc, on est devenu Sami Amazing.
Sami Amazing, alias le comte de Bouderbala, est avec nous cet après-midi pour nous présenter son livre Amazing.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, si nous sommes réunis en cette sinistre fin d'après-midi de novembre, c'est pour saluer une dernière fois, tous ensemble, la mémoire de la crédibilité journalistique d'Eva Rock, qui après 27 défaites d'affilée dans le quiz qui l'oppose à l'invité, a fini par abdiquer.
Ah merde!
On croirait l'entendre encore parler par-delà le trépas. Pourtant, l'abbé Sirou, ici présent, le sait, car oui, ses lunettes de pervers lui permettent aussi d'incarner un abbé à l'occasion. L'abbé Sirou le sait. À la question, verra-t-on un jour Eva Rock remporter un quiz?
Aujourd'hui, la réponse est claire, on prie.
Prions ensemble, mes fidèles agneaux, voici le quiz. Monsieur le comte de Bouderbala, aujourd'hui, le thème de ce quiz qui va vous opposer à Eva est un hommage, évidemment, à votre glorieux passé sportif, un hommage au meneur des Huskies, une des meilleures équipes de la NCAA, mais également un hommage à l'ancienne meneuse du SLB, du
J'étais
Stade Laurentin
meneuse.
Basket. Vous étiez quoi?
J'étais hélière.
Vous étiez hélière, comme on dit, ou qu'on ne dit pas, je ne sais pas. Vous étiez au Stade Laurentin Basket, c'est vrai,
mais
ça, Eva?
Mais j'en ai fait 10 ans du basket.
Vous avez un bon petit niveau.
Mais non, j'ai fini en région. Chez les filles, c'était un petit niveau quand même. Mais je vous raconterai après. Allez-y avec votre quiz à la
mais on a très envie que vous nous racontiez quand même un moment. Réfléchissez bien.
Le Stade Laurentin, c'est dans le sud, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Saint-Laurent-du-Var, je pense.
Ouais.
Parce que j'avais envoyé une lettre de candidature là-bas et ils m'ont jamais calculé.
C'est vrai,
fait des trucs de dingue à l'époque pour essayer de gratter des clubs. Je faisais des cassettes vidéo.
Des cassettes vidéo où
mais je me filmais.
Non, c'est énorme.
J'étais en costume. Allez, prenez-moi en anglais et tout. Un vrai dingo. Et j'avais envoyé des lettres
équipe,
à toutes les équipes de National 2 à l'époque.
Exactement.
Il y avait Saint-Laurent-du-Var. Ah ouais, un vrai coup.
Et ben voilà.
Bon, je sentais que tous les deux, vous faites tout pour éviter le quiz.
Je le sens,
ça vous fait peur. Mais vous avez raison d'avoir peur, car voici le quiz. C'est un vrai faux. C'est parti.
Non, je sais ce que c'est.
C'est parti. C'est un drapeau sur le basket, évidemment.
Oui, bien sûr.
Eva Rock, qu'est-ce qui est le plus haut, le panier de basket ou la hauteur du tableau Guernica de Picasso?
Non, je sais pas. Ouais, non, Guernica peut-être. Non, je sais pas, mince.
Oui, mais vous devez donner une réponse, on s'en fout en même temps.
Bon,
ça,
panneau de basket.
Le panneau de basket, c'était Guernica, voilà. La bonne réponse. J'ai bien fait de vous faire, réfléchir une deuxième fois.
Je me fais douter pour
3m49, là où le panier de basket est à 3m.
0,5.
Vous dunkiez.
Oui. Comment?
Vous dunkiez, Samy?
Jamais de la vie. Moi, j'étais en galère, je n'avais aucune détente. Pareil, pour essayer de gratter de la détente, j'ai fait tous les exercices possibles, imaginables. Je prenais des chaussures exprès qui venaient des États-Unis, j'allais dire des Amériques. Le mec est vraiment à l'ancienne.
En 1920, le comte de Bouderbala se lance dans le basketball.
C'est bon, avec la voix de Lina, c'est bon.
Oui, je l'avoue.
Et tu sais, j'avais acheté des baskets, ça s'appelle les jump soles. Et en fait, tu marches sur la pointe des pieds. Et je me baladais avec ça, mais dans la ville. Mais un mongol, on aurait dit, un extraterrestre. Hein. Et pour essayer de gratter de la détente. J'ai quand même réussi à gratter 20 cm de détente.
Ah, quand même.
C'est énorme.
Quand même, c'est
mais
pas
vous vous souvenez, je crois qu'il y avait un basketteur tout petit, Muggsy Bogues.
Muggsy Bogues.
Dunkait, non?
Non, c'était Spud Webb.
Ça veut dire Bogues, quoi, dunkait? Ah, pardon. Dunkait, pour les non-initiés, c'est-à-dire sauter.
Des smatch.
Et smatcher la balle dans le panier. claquer la balle dans le panier avec sa main. Donc il faut sauter à 3,5 m. Compte de Bouderbala, Eva, on parle toujours basket, vous jouez ensemble. Le 20 août dernier, qu'est-ce qui a été vendu 120 000 $? Deux chaussettes usagées de Magic Johnson, le maillot d'université de Barack Obama ou un ballon unique Dior?
Moi, j'aime bien l'histoire des chaussettes toutes pourries, là.
Ça m'étonne pas de vous.
Ouais.
C'est votre côté pervers.
Ouais. Moi, je prends les chaussettes.
Vous prenez les chaussettes,
ouais,
très
bien.
Moi, en tant que fétichiste, j'aurais pris les chaussettes, mais je pense t-shirt d'Obama.
Le maillot de Barack Obama. Effectivement, c'est la bonne réponse. Compte de Bouderbala au lycée de Punahou, à Hawaï, je ne sais pas si on prononce bien. Quand il avait 18 ans, c'était le numéro 23. Il avait dû le prendre comme Jordan. Compte de Bouderbala, en mai 2019, le joueur français Evan Fournier a tweeté la veille du match France-Espagne. Je vais mettre 13 points, 4 bons et faire 2 contres. Et effectivement, c'était à la fin de la rencontre. C'est statistique exacte. Vrai ou faux?
Je pense qu'il a mis plus. Je pense qu'il a mis plus que ça, parce que c'est un exceptionnel joueur. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je pense qu'il a mis plus.
Vous avez raison, c'était faux. Par contre, c'est un joueur qui n'a jamais caché sa grande rivalité envers l'équipe de basket espagnole. Il a tweeté en 2018 « C'est la première fois que j'ai de la peine pour les Espagnols » quand il a appris que Manuel Valls était candidat à la mairie de Barcelone. Véridique.
C'est vrai.
C'est évidemment le comte de Bouderbala qui remporte notre quiz. Je crois qu'on peut, l'applaudir.
Merci.
Comte de Bouderbala.
Merci Eva.
On revient. Vous connaissez le stade Laurentin, ça va me faire ma journée, mon week-end je pense.
On revient sur votre livre Amazing, l'histoire de votre périple aux États-Unis quand vous jouiez au basket au niveau universitaire. C'est une belle histoire, mais quand même, il y a un côté un peu triste, c'est que vous avez compris là-bas qu'il y avait quand même une différence de niveau qui était importante. Quand vous êtes arrivé, vous avez compris qu'il allait falloir vous entraîner deux fois plus pour arriver au même niveau que les autres.
C'est ça, mais après c'est en filigrane dans le livre, on ment beaucoup à nos jeunes en France. C'est aussi ça qu'il faut dire.
Dans quel sens?
Sur l'éthique de travail, sur c'est pas en travaillant. C'est pas en travaillant en tant que sportif, c'est pas en travaillant 2 heures par jour que tu vas être un grand sportif.
Ça, c'est ce que travaillent les jeunes français. Et là-bas, on travaille combien de temps?
C'est ce que travaillent les jeunes. Alors, les jeunes français d'excellence, c'est 4-5 heures par jour.
D'accord.
Par exemple, l'INSEP. Et les autres, c'est 2 heures. Mais c'est pas en 2 heures que tu arrives. Aux États-Unis, c'est 5 heures, 6 heures minimum. Donc forcément, ou même en Yougoslavie. Non, c'est vrai. Dans les pays où justement le basket, c'est des...
Mais ça n'existe plus depuis 30 ans.
Serbie, oui, mais à l'époque du comte, de Bouderbala, en Yougoslavie...
Croatie.
Moi, je suis resté bloqué dans les années 80, les amis. Mais tu vois, tous ces pays-là où il y a le basket, c'est un sport d'excellence, ouais. Où c'est le premier sport, c'est beaucoup plus d'heures que nous. Donc, mais après, c'est même sur les autres domaines. Tout à l'heure, Alain, le mélange de Bill Gates et Yves Fournieret nous parlait de... de ces fameux scientifiques, c'est exactement la même chose.
Sinon Alain, il n'est pas au niveau de Bill Gates, pourquoi? Parce qu'il a bossé 2 heures par jour au lieu de bosser 5 heures par jour, Alain.
Il fournirait.
Ouais, mais il a un...
Non.
Ça, on ne veut pas savoir ce que vous avez bossé de ce côté-là.
Parce que c'est le seul chroniqueur à faire une chronique la main dans le slip, donc c'est bizarre. Moi, je veux bien, Alain, mais tu m'aides pas.
Retrouvez-nous en vidéo sur Europe1.fr pour vérifier les dires du comte de Bouderbala qui publie Amazing. Il est notre invité cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, entouré d'un invité, lundi c'était le médecin urgentiste Patrick Peloux et Deva Rock qui testent pour nous des expositions.
À noter qu'à l'issue de cette exposition, voulant apporter sa pierre à l'édifice, Eva a proposé de rejoindre le casting du spectacle des Enfoirés à Jean-Jacques Goldman, qui va étudier la maquette qu'elle lui a fait passer.
Yo,
le rap c'est pas du tout ma cam.
Yo.
Et qui, je cite son mail, reviendra vers elle très vite pour lui donner une réponse. On prend en vous Eva. Alors, cette exposition.
C'est plus Jean-Jacques Goldman qui s'occupe du spectacle des Enfoirés.
C'est vrai, pour moi je vais vous dire un truc, pour moi ça sera toujours Jean-Jacques Goldman.
Vous avez raison. En fait, c'est à l'occasion des 30 ans des Enfoirés, il y a une grande exposition sur 500 mètres carrés qui est organisée à Paris à la Villette. Je l'ai testée pour vous et elle mérite vraiment des tours. Surtout, vous pouvez y aller avec vos enfants. Alors, tout commence avec l'appel de Coluche. Vous savez, c'était sur Europe 1, l'appel pour les Restos du Cœur, pour la création. Et elle résonne d'ailleurs, il résonne cet appel dans la première salle. Et puis, rapidement, vous allez être plongé en fait dans les coulisses du show des Enfoirés, depuis les origines du spectacle, quand il n'était encore que 5 Enfoirés, comme nous le raconte Mathias Goudot. Il est commissaire de l'expo et directeur artistique des Enfoirés.
Il y a 30 ans, 89 exactement, il y a une première tournée, puisque Véronique Colucci relance après le décès de Coluche. L'idée d'avoir un concert, elle l'appelle Jean-Jacques Goldman et avec la femme d'Eddie Mitchell, ils vont appeler tous les autres artistes, les 5, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Véronique Sanson et Jean-Jacques Goldman.
Et voilà, ils n'étaient que 5 au départ et puis aujourd'hui, ils sont quasiment une centaine sur scène, ils sont 400 surtout en coulisses et donc c'est une immersion dans ce travail. travail-là qui vous attend. Le croquis des décors, les partitions qui sont retravaillées pour chaque artiste. Vous allez aussi pouvoir chanter avec un des ingénieurs du son des Enforêts grâce à un karaoké interactif.
Alors, Anissé Midan, je vous interdis d'aller à cette exposition.
Voilà, exactement. Vous pouvez entrer dans un des clips ou encore monter sur scène, mais la pièce la plus incroyable, c'est celle des costumes.
Donc on est dans la loge homme, avec des costumes que vous pouvez toucher, vous pouvez regarder et pas les essayer, d'autres pourront être essayés, mais pas ceux-là. Mais il y a les chaussures aussi des Enfoirés qui ont tous été portées, hein. Costumes et chaussures ont tous été portées.
Il y a une paire de chaussures là qui me paraît immense, c'est-à-dire que je pense que je peux mettre deux fois mon pied dedans.
Non, pas du tout, elle doit faire du 52 à peu près, et d'après vous c'est qui alors? Qui est l'Enfoiré qui aurait pu porter ces chaussures-là?
C'est pas Jennifer, mais on est chez les hommes.
On est chez les hommes déjà, c'est Sébastien Chabal, c'est effectivement Sébastien les chaussures Chabal. De Sébastien Chabal.
Donc j'ai touché les chaussures de Sébastien Chabal, je peux vous dire que c'est absolument impressionnant. Alors, il y a des centaines de costumes par spectacle évidemment, alors autant vous dire qu'il faut veiller surtout à ne commettre aucun impair.
Un jour, et c'est filmé, vous pouvez le voir dans l'expo, Cad de repartir en slip, hein, carrément. Voilà, il est reparti en courant. Alors, c'est l'humour de Cad, évidemment, qu'on vit dans les loges. Et repartir en courant en disant, mais pourquoi je ne peux pas aller comme ça sur scène? Ça serait bien plus simple que d'enfiler tous ces costumes.
C'est absolument passionnant, mais surtout, c'est ludique, évidemment. Le travail iconographique, il est impressionnant. Et surtout, dans chaque pièce, vous allez aussi découvrir à quoi servent les dons, puisque toutes les missions des restos sont détaillées. Regardez bien, d'ailleurs, il y a une petite pastille rose qui a été placée à proximité de certains objets. Ils sont vendus aux enchères sur Internet, au profit des restos. Évidemment, c'est jusqu'au 29 décembre 2019 au parc de la Villette. C'est du mercredi au dimanche. C'est 10 euros. C'est gratuit pour les enfants. Et évidemment, tous les bénéfices vont au Resto du Cœur.
Vous poser la
évidemment,
question.
Évidemment.
Alors ça va. Merci beaucoup, Eva Rock.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
Allez, il nous reste encore quelques minutes à passer aux côtés de Mathieu Noël. Je rappelle que le week-end, nous vous concoctons une compilation de la semaine écoulée. Et mercredi, Mathieu Noël recevait Alex Jaffré, actuellement en spectacle au Théâtre République à Paris, tous les mercredis et jeudis à 20h.
Musicien passionnant, doté comme Eva d'une oreille incroyable.
Une musique dans le studio.
Je cherchais à savoir d'où venait la musique que j'entendais. C'était ma musique de mon téléphone qui s'était mis en marche tout seul.
Vous avez tant en commun. Vous êtes célibataire, Alex?
Non, il est pas célibataire.
C'est dommage. Le championnat du monde de la chelou. Mais, ah ouais, mais je passe la meilleure après-midi de ma
c'est
vie.
Vrai,
c'est mon cadeau de Noël, j'ai mon
tout,
anniversaire.
J'ai tout conçu pour vous.
Oh, je vous aime.
Alors, Alex, vous êtes venu avec votre sampleur que vous avez sur scène aussi au Théâtre Le République. Vous nous faites découvrir l'histoire de la musique par des petits sons comme ça qui déclenchent une histoire. Si vous appuyez comme ça au hasard.
Celui-là, tiens, au hasard. Vous connaissez ça? C'est Eddie Jones. Eddie Jones,
c'est bon ça.
En 74, il a écrit ça, il en a vendu deux. Hein,
c'est
sa
vrai
pauvre mère malade.
Parce que je connais pas ça, c'est bien.
Bah ouais, c'est vachement.
Vous me le donnerez après l'émission.
Et juste dans ce morceau, vous avez ce passage-là. Assez intéressant avec cuivre, cordes, c'est très disco. Si je prends ces petits extraits comme ça et je le découpe en quatre parties, comme ça. Je peux.
Daft Punk!
Mais oui! Regardez!
Daft Punk! Ils ont fait ça?
Bah oui.
Mais en lui demandant son avis? Oh, c'est génial ça.
Et le truc de dingue, c'est que le titre original d'Eddie Jones a été produit par le papa Bangalter, le père d'un des deux Daft Punk.
Ah donc, c'est vraiment... Ah.
Et tous les soirs, il se passe la même chose que là, c'est-à-dire il y a un blanc et à chaque fois je dis les gens s'en branlent. Oui, les gens s'en branlent. Les gens s'en foutent complètement. Non mais c'est
non.
Vrai, c'est drôle. Mais si, je vous jure. Non mais venez voir. C'est génial, c'est le moment où il y a un blanc dans la salle parce que les gens font « Ah, mais mets-nous de la musique, on s'en fout de connaître la parenté des trucs. » C'est pas...
Ah, pardon,
on s'en fout
moi,
de connaître la
moi,
famille,
pas...
machin et tout.
Ah moi, je ne suis pas... Mais non, ça montre l'influence.
Vous n'avez pas un autre petit bouton qui nous raconterait
une histoire? Boutons, Eva,
mais
pour
oui,
vous.
Je sais. Vous
voulez qu'il appuie?
Par exemple, est-ce que vous voulez m'aider à compter? 1, 2, 3,
mais on compte quoi?
4, 5, il y en a 144. Il y a 144 Around the World dans le titre Around the World.
Il y a trop d'Around the World dans Around the World, j'ai toujours dit.
C'est vrai.
Et tout le monde prend cette chanson comme la référence de Daft Punk. Moi, je préfère beaucoup l'album plutôt aérodynamique. Après, je préfère bien plus ce qui a suivi que cet album-là.
Mais vous savez que c'est pas eux qui ont inventé le copier-coller.
Oui,
c'est
oui.
Pas eux. Non, c'est un groupe. Alors, c'est des fourbes d'Espagnols qui ont 68. Oui, messieurs, là, des fourbes d'Espagnols qui ont 68 nous ont ravi la première place à l'Eurovision avec ce titre.
Oh,
donc,
salauds.
Je vous laisse découvrir la puissance grammaticale. Il y en a 137.
137.
Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre parole. Et les mecs ont gagné à l'Eurovision avec ça.
Bon, cela dit, dans Hey Jude, il y a beaucoup de la 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 à la fin.
Ouais, 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 mais avant, il y a un peu des paroles.
C'est vrai qu'il y a 2-3 paroles dans Hey Jude avant. Et là, il n'y a que la 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 dans ce morceau.
Il n'y a que ça.
Il n'y a pas une petite histoire de Beatles, non? Vous n'avez pas une petite histoire sur les Beatles?
Oh, si, mais c'est long.
Ah, bon.
Et à la fin, il meurt.
Et surtout.
Oh. Et surtout,
il va pas nous faire tout son spectacle, Eva, parce que si on veut le retrouver, il faut aller où?
Il faut aller d'abord au République, le théâtre Le République, jusqu'au 19 décembre, et puis sortie en 2020 au théâtre du Lucernaire du 4 février jusqu'à la fin du mois d'avril.
Alex Jaffray, il y aurait, d'après vous, un lien entre Charles Aznavour et Dr Dre?
Oui.
Je suis dubitatif.
Vous pouvez. Qui ne veut pas dire éjaculateur précoce, dubitatif. Ce n'est pas de moi, c'est de des proches, mais j'adore cette vanne, franchement.
Ah bah oui. Vous pouvez.
Par exemple, parce que tu crois. C'est une des 750 chansons écrites par le grand Charles. Hein. Vous voyez l'intro de ce morceau ? Je le descends de 5 demi-tons. Je traverse l'Atlantique et je vais écouter quoi ?
Mais non.
Dr Dre.
Mais attendez.
Ah, génial.
Mais alors attendez. Parce que ça, c'est, moi je trouve ça fascinant, mais ça c'est voulu, c'est intentionnel.
Ah oui, oui, oui.
Ah, ils ont vraiment pris le
c'est-à-dire
sample.
C'est-à-dire qu'il y a des DJ aux États-Unis qui font du cred digging, c'est-à-dire qu'ils vont chercher dans des vinyles, des trucs comme ça, et d'un seul coup, il entend ça, et le mec se dit, ah génial, je le ralentis, et je rajoute un pied de grosse caisse, et ça fait. Et hop, Dr Dre. What the difference?
Bien, je crois que c'est la transition idéale vers ce qui suit, qui est normalement la chronique gastronomique, mais pas que. C'est un peu plus qu'une chronique gastronomique.
Absolue.
Puisque lui aussi, il a tenté hier l'impensable. Un rap devant l'équipe d'IAM. Je vous présente le plus grand rappeur belge, Olivier Pouls, alias Snoop Doggy Bag. Notre expert culinaire, chaque soir sur Europe 1, qui s'est donc mué hier pour IAM en rappeur. J'ai failli dire pour le meilleur et pour le pire, c'est la formule consacrée, mais vous allez voir que dans cette histoire, le meilleur n'a pas vraiment droit de citer. Voici, mesdames et messieurs, le premier single de Snoop Doggy Bag, Gangsta Yoli. Une exclu Europe 1.
Mais non. Et je mange la Yoli dans un mortier, là il te faudra mettre coupé. Avec de l'huile, la Yoli doit se monter. No, it's me, solo C. Un peu de citron, oui, tu peux rajouter. Je n'ai pas un œuf, tu vas te faire buter.
Gangsta Yoli, premier extrait de l'album choc Blanket Fucker, le renouveau du rap belge, selon les Inrecuptibles.
Ou la mort,
mais, ou la fin. Mais Olivier Pouls, votre destin de star du hip-hop ne vous empêche pas de rester concentré sur votre mission jusqu'au bout. Nous livrer chaque soir une recette facile, express, mais bluffante.
Oui, j'ai juste demandé avant, Alex, il avait l'intention dans son spectacle de parler de ce grand morceau et de, peut-être de le décortiquer aussi.
Écoutez, j'ai appelé l'Eurovision, vous êtes dans l'IS. Hein, okay.
Voilà. Vous pourrez pas faire pire. Enchaînez sur votre recette.
Est-ce qu'on a encore le temps de parler un peu de produits et de cuisine?
De beaux produits, des clémentines, j'adore ça.
Ben regardez, je vous ai apporté quelques clémentines de Corse, ce sont les premières, elles viennent d'arriver. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs la différence entre clémentine et mandarine?
Non,
voilà.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout.
Non.
Donc, la différence entre clémentine et mandarine est assez simple. Les mandarines sont un agrume issu d'un arbre qui s'appelle le mandarinier. Elles contiennent en général des pépins, et c'est un fruit qui est un peu plus tardif. Il n'y en a pas encore. On va en trouver en début d'année, à partir du mois de janvier. La clémentine, c'est issu d'un croisement, donc c'est un hybride, entre un mandarinier et un oranger. C'est un fruit qui est un peu plus acidulé. On le reconnaît notamment lorsqu'il vient de Corse, comme c'est le cas aujourd'hui, à ces petites feuilles. Mais alors, il faut se méfier parce que maintenant, les Espagnols laissent aussi des feuilles pour laisser penser que ce sont des
encore des ces courbes d'Espagnols dont vous parliez tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on répète 137 fois le même la-la-la, on peut mettre des feuilles derrière des fruits.
Les feuilles sont là, voilà.
Et puis, à son petit cul un peu vert...
D'accord, bon, c'est noté.
Voilà,
oui.
Et elle a une saveur qui est un peu plus acidulée, que je trouve plus intéressante d'un point de vue gastronomique.
Vous espériez faire une recette avec les clémentines que vous avez amenées?
Non, parce que vous tout manger, évidemment.
Oui, exactement. Ouais,
alors moi, j'aime beaucoup les utiliser en sucré salé. C'est quelque chose qui marche très très bien avec le salé parce que son côté acidulé, justement, on va l'utiliser. Et comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va faire une recette vraiment très simple. Oui. Vous allez faire un beurre de clémentine. Et ce beurre de clémentine,
bonne idée, ça, oui.
Vous allez pouvoir l'utiliser pour cuire tout un certain nombre de choses, notamment des poissons, par exemple. Ça marche très très bien. Alors pour faire un beurre de clémentine, c'est très simple. Vous prenez quelques clémentines, vous les pressez, vous récupérez le jus. Vous mettez ce jus dans une casserole et vous le laissez réduire pratiquement à caramélisation. Une fois que ce caramel est obtenu, vous allez mélanger ça avec du beurre ramolli. Et puis, il n'y a plus qu'à le remettre au frigo et vous utilisez très régulièrement. Vous pouvez même rajouter le zeste dedans si vous voulez encore aromatiser davantage.
Super idée, ça.
Et vous allez pouvoir utiliser ce beurre voilà, tout au long de la saison et faire plein de plats très créatifs avec tout ça.
Les clémentines au petit cuvert de l'ami Snoop Doggy Bag. C'était la recette d'Olivier Pouls qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1 et évidemment sur Skyrock entre minuit et 3h du mat.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Ainsi s'achève ces 2 heures en compagnie de Mathieu Noël et de son équipe est sauvage avec Eva Rock et les journalistes de la rédaction d'Europe 1. La compétition se poursuivra bien sûr dès demain, 16h, en présence d'un nouvel invité. Et demain, ce sera le chanteur Tété. Dans un instant, votre grand journal du soir jusqu'à 20h, présenté par Wendy Bouchard.